Donc, la nature, la géométrie, et puis les cycles, cette idée du cyclique. C'est des choses que l'on retrouve aussi dans le travail de Radwan Mriziga, ce travail de l'espace, ce travail du calcul des proportions, ce travail de la perception de son échelle. C'est une préoccupation qui va être fondatrice, fondamentale dans le travail de ce jeune chorégraphe, avec une approche initiale tout autre, c'est-à-dire qu'il ne part pas de principes géométriques hors de lui, mais dès ses premières pièces, il va partir de son corps comme propre mesure de l'espace extérieur. Je vous montre un court documentaire, je vais vous en montrer 3 consécutifs. Celui-ci va vous montrer des extraits et puis une courte interview sur son premier solo, 55, en 2014. Vous allez voir une autre approche de la géométrie.
Pour sa toute première pièce, un solo nommé 55, Redouane se lance un défi. Décorer le plateau d'une rosace avec pour seul accessoire une craie, un rouleau de scotch et son corps.
Ça vient peut-être du travail de mon père et de ma mère. Je suis fasciné par l'artisanat en général et par la répétition. Les artisans doivent refaire des milliers de fois le même geste pour le maîtriser. Et ils trouvent magnifique ce moment où tu dois répéter des choses, même si elles sont très simples, et même si c'est juste scotché. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Oui, je peux te dire que je maîtrise le ruban de masquage.
Ici, ce ne sont pas des principes extérieurs, vous l'avez compris, qui vont fonder sa géométrie, mais elles résultent du corps lui-même. Et puis, nous voyons dans ses paroles aussi apparaître le goût de l'artisanat, de celui qui répète le geste. C'est-à-dire qu'aussi, le danseur serait aussi l'artisan de son geste, celui qui serait en capacité de répéter à l'identique et à l'infini des gestes extrêmement précis. Mais là encore, il ne s'arrête pas, lui non plus, à une géométrie de plan au sol. Et il va très rapidement développer cette géométrie dans la construction de l'élévation. Et non plus seul, mais à plusieurs danseurs. Et ça sera le deuxième objet de création de cette trilogie, intitulée 3600, où là, ça sera un espace, enfin, l'espace artistique devient un espace de construction.
Je suis bon en géométrie et en algèbre, mais pas en calcul mental.
En 2016, Redouane Mriziga présente 3600 au Leopold Museum de Vienne. Durant une heure, les danseurs érigent une forme architecturale. En chef de chantier, le chorégraphe et ses danseurs maçons suivent une partition millimétrée, où chaque geste apporte sa brique à l'édifice. Un plan rondement mené.
Qu'est-ce que je pouvais faire avec la danse qui dépasse la simple danse ? Non pas qu'elle ne soit pas suffisante pour moi, mais justement parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus dans la danse que ce que les gens pensent. En général. J'ai donc voulu construire quelque chose de visuel. Alors bon, c'est assez conceptuel et borné comme manière de voir les choses, mais voilà, en résumé, je me suis dit, avec la danse, je veux construire quelque chose qui n'a rien à voir avec la danse.
Donc ils construisent, ils forment, reforment des architectures éphémères en briques. Et cela laisse aussi transparaître une dernière caractéristique peut-être de ce chorégraphe dans son rapport à la géométrie en tous les cas, c'est faire dialoguer sa culture et ses savoirs associés à la danse contemporaine. Et ça sera tout l'enjeu de cette dernière pièce de la trilogie, 7, où il va convoquer aussi cette mémoire issue de l'histoire de l'architecture de sa région natale. Je le laisse en parler et je continuerai ensuite.
J'ai grandi dans la géométrie musulmane. C'est l'une des premières formes d'art à laquelle j'ai été confronté quand j'étais enfant. Puisque nos maisons, les mosquées, les villes sont remplies de ces formes artistiques. Pour moi, ça a été très important dans l'éducation de mon regard, ma façon de voir les choses et d'organiser l'espace.
Ces figures géométriques, on les retrouve aussi sur les maisons berbères de l'Atlas, les montagnes qui donnent leur nom à la compagnie du danseur. Une culture qui plonge ses racines jusqu'à l'époque des pharaons. C'est en l'honneur de ces derniers qu'en 2017, à Lafayette Anticipation à Paris, Redouane présente Seth, comme les sept merveilles du monde. Le chorégraphe utilise ici le corps des danseurs comme le faisaient les bâtisseurs de pyramides.
À l'époque des pharaons, on mesurait tout à partir du bras d'un pharaon. Ça veut dire que chaque pharaon était l'unité de mesure de toutes les constructions. Je trouve fascinant que tous les bâtiments soient faits à partir d'une seule personne, parce qu'elle est quelqu'un de très important.
Alors, en évoquant cette coudée royale égyptienne, ça nous amène à la troisième force en présence dans cette création qu'ils vont avoir conjointement. Ce serait le rythme comme force créatrice, le rythme quelque part peut-être comme coudée royale à l'avènement de cette pièce. C'est le rythme qui va vraiment être l'instrument de mesure qui va permettre de faire, se rencontrer. La danse de ces deux chorégraphes et la musique de Vivaldi. C'est notre troisième et dernière entrée pour ce soir. Alors, développer un dialogue dynamique musique-danse, ou plus exactement un dialogue entre partition musicale et partition chorégraphique. J'ai relu un entretien croisé entre Philippe Guisgan, qui est un chercheur spécialiste d'Anne-Thérèse de Kersmaeker, et Jean-Luc Plouvier. Ils s'accordent à dire que, je les cite, pour Kersmaeker, la musique est d'abord un livre à ouvrir, celui de la partition. Et c'est vrai que on sait qu'Anne-Thérèse de Kersmaeker ne s'appuie pas tant sur la musique, parce que cela supposerait qu'il y a une antériorité de la musique à la création chorégraphique, mais elle est plutôt dans l'idée de coécrire avec elle, même si elle préexiste, même avec les œuvres préexistantes, coécrire avec la musique. Dans une première phase de travail, sur ses premières pièces, en tout cas dans une première période de travail, elle travaillait peut-être sur les relations de soumission ou de révolte par rapport au phrasé musical. Mais ensuite, à partir des années 90, ces relations vont devenir d'une toute autre nature dans ce rapport à la musique, plus libre peut-être. Et en même temps, toujours de travailler cette complexité de dialogue qu'on ne perçoit peut-être pas toujours en tant que spectateur. On n'en saisit peut-être qu'une partie, mais être vraiment dans ce dialogue entre partition chorégraphique et partition musicale. Alors ça suppose des qualités musicales et rythmiques fortes pour la chorégraphe, mais vous imaginez bien que ça suppose aussi les mêmes compétences pour les danseurs-interprètes qui vont être au plateau. Je vous présente un petit temps de travail chez Anne-Thérèse de Kersmaeker.
One, two, three, 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 speed up. Can I say something? It's really important if you only have so much leg that you really go on dummy point and that you come down. This is really up. And this goes like you bring them like this. Yeah. Huh? Same thing.
Ce moment de répétition est intéressant parce que c'est un moment où quelque part la danse nous fait voir la musique et en même temps la musique nous donne à entendre la danse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de très combiné dans ce moment de répétition. On sent les rythmes, les tensions, les syncopes, les silences. On sent tout de suite aussi quand ça marche plus. Hein, même si on n'est pas un grand musicien ou un grand danseur, tout de suite il y a quelque chose qui est dissonant. Donc ça c'est intéressant et ça montre que ça nous envahit les sens aussi en tant que spectateur. Et sans cesse, on aperçoit, même si on ne la comprend pas, une logique interne à ce qui est en train de se passer. On aperçoit quelque chose qui fédère entre la danse et la musique. Alors il y a certains compositeurs qui sont récurrents chez Anne-Thérèse de Kersmaeker, parce que ce sont des compositeurs, on va dire, de partitions cycliques. C'est le cas de Bartok, c'est le cas de Ligeti, c'est le cas de Steve Reich, dont on aura l'occasion d'entendre la musique dans le film tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément l'intéresser. Mais il y a aussi des co-créations. Je pense les co-créations avec notamment Thierry Demey, qui est le cinéaste qui a filmé le film que nous verrons tout à l'heure, mais qui est aussi musicien, qui est un collaborateur de longue date de Anne-Thérèse de Kersmaeker et qui va ainsi travailler avec elle à des compositions musicales qui vont être co-créées en même temps que la danse. Peut-être que je vous en montre un extrait ou en tout cas l'un et l'autre s'expriment sur cette relation de rythme entre danse et musique.
For those who have worked already with me, you know how much I'm obsessed and continues to be obsessed by a number of things, yeah?
Such as spirals.
Yeah? Oh. But the more I work, the more I get to this very basic thing that it's all about organizing time and space and about basically two movements, opening and closing. Male energy, female energy. This is the music-wise, the third big rendezvous with Thierry. There have been Rosas non Rosas, there has been Amor Constante. And now this is the third time I'm going to work together with Thierry for making a piece where the dance and the music are written together.
Quand on parle de mettre ensemble de la danse et de la musique, il y a évidemment une question qui se pose, c'est qui donne l'impulsion? Qui suit l'autre, comme dans tout dialogue? J'étais tombé sur une très belle phrase de Cummings, qui dit « Asking for a more beautiful question », on demande une plus belle question. Je crois que le rapport danse, musique, s'il peut être porteur, s'il peut être inspirateur des deux côtés, c'est ça en fait. C'est ce mélange d'exigence et de confiance par lequel tu demandes quelque chose de plus à l'autre. Comme ça, et c'est cette espèce d'exigence qui fait monter les enchères de part et d'autre.
Thank you.
Alors, je l'arrête ici parce que le temps passe, mais vous l'avez compris, l'importance de ce dialogue, de se mettre en accord avec la musique et avec la danse. Et c'est ce qui va aussi se passer pour cette nouvelle création. Comment se mettre en dialogue, comment se mettre en accord avec ces quatre saisons de Vivaldi, aussi en dialogue avec un autre chorégraphe. Un dialogue à trois, Interessa de Kersmaeker, dans le même type de projet, on a déjà eu une collaboration partagée il y a quelques années avec un autre chorégraphe qui s'appelle Boris Charmatz, où ils avaient conçu Partita 2, un duo sur la musique d'une partition de Jean-Sébastien Bach, à la différence que pour Partita 2, Anne-Theresa de Kersmaeker signait la chorégraphie et Boris Charmatz en était un des deux danseurs avec elle. Donc c'était une configuration un peu différente. Mais il y avait cette idée de se confronter comme ça à une partition emblématique de la danse savante, une partition de Bach. À ce sujet, c'est une chaconne, et donc Anne-Theresa de Kersmaeker disait « L'allemande nous fait marcher, la courante courir, la sarabande nous plie à toutes sortes de motifs, et l'implacable chaconne nous jette dans de jubilatoires courses en cercle. » Les cercles, vous les voyez dessinés au plateau. Je vais vous faire découvrir brièvement ce travail à partir d'un documentaire télévisuel au moment de sa sortie. Ça va être l'occasion aussi de comprendre comment est-ce qu'elle travaille à partir de ces musiques plutôt anciennes et qui sont complexes, et comment elle a des collaborations pour cela.
C'est une rencontre au sommet de la danse. Anne-Theresa de Kersmaeker et Boris Charmatz ouvrent le Festival International Foreign Affairs à Berlin avec la Partita numéro 2. La chorégraphe flamande et son collègue français se sont vus régulièrement pendant 2 ans pour travailler sur la musique de Bach.
Je suis fière qu'on a eu beaucoup de patience. Je crois que c'était un processus de travail aussi assez... pas clos, mais enfermé. Il y a très peu de monde qui est venu voir. On voulait garder les choses très proches de nous-mêmes.
Et de fait, une certaine intimité se dégage déjà de ce duo. L'accord profond entre les deux danseurs est palpable. Les tâches étaient clairement réparties. C'est Anne-Theresa de Kersmaeker qui signe la chorégraphie. Elle a aussi choisi la musique, la Partita numéro 2 de Bach.
C'est une invitation directe à la danse. Donc comment est-ce qu'on a envie de bouger quand on entend cette musique? Ce rapport-là, il est absolument présent dans la danse. D'autre part, il y a quelque chose de très structuré, c'est du Bach.
Cette partita est en réalité un pas de deux pour trois solistes. Les chorégraphes se sont appropriés l'interprétation d'Amandine Beyer qui joue avec la partition en direct sur scène. Pour la violoniste baroque, ce dialogue avec les danseurs est une expérience très enrichissante.
Ce travail avec les deux, pour moi, c'est un don du ciel. C'est une chose que j'aurais jamais pu imaginer qui puisse m'arriver avec cette musique, c'est-à-dire ne plus avoir à la porter moi sur mes épaules, mais à avoir vraiment un rapport avec deux autres artistes qui, en plus, m'amènent un côté que moi, je connaissais assez peu, qui est en fait le côté de la création.
La chorégraphie qui mêle structure et émotion apporte un soupçon de désorganisation dans l'ordre mûrement réfléchi de l'œuvre de Bach.
Quand j'entends Bach, j'ai toujours l'impression comme on reconnaît, on se reconnaît sans pouvoir nommer les choses.
C'est sans recueillement exagéré que les danseurs vont à la rencontre de Bach. L'exaltation qui en émane est d'autant plus durable.
Alors l'autre point commun entre Partita 2 et cette nouvelle création que vous découvrirez ce week-end, en fin de semaine, c'est la musicienne Amandine Beyer. Elle est violoniste, elle a fait le tour du monde en tant qu'interprète soliste, et elle a fondé son propre ensemble, Gli Inconiti, avec lequel elle aborde un grand panel de musique instrumentale, du Bach, du Vivaldi, du Couperin, de Haydn, du Mozart. en parallèle, elle travaille aussi à la musique de chambre. Et puis, elle va enregistrer avec son ensemble en 2008 les quatre saisons de Vivaldi, qui est alors un enregistrement qui est largement salué par les professionnels à différents endroits. Et elle va collaborer à cette création chorégraphique dans l'analyse musicale des quatre saisons. Et dans, c'est son enregistrement qui va être qui a été récemment réédité, qui va être aussi le point de départ de cette création. Alors, quand on lit Amandine Beyer dans des interviews au sujet de cette création, lorsqu'elle parle de la musique de Vivaldi, elle en parle peut-être pas dans les mêmes termes que les chorégraphes. Voilà ce qu'elle dit lorsqu'elle parle de Vivaldi, surtout de ses quatre saisons. Elle nous dit, c'est très cosmique. En tant que violoniste, je trouve que sa musique symbolise ce cycle d'ouverture et de fermeture. Tout juste avant, Anne-Thérèse Kersmaeker utilisait les mêmes mots. Y compris dans la façon dont Vivaldi utilise le violon et exploite sa formidable capacité imitative. Vivaldi était très conscient de la nature autour de lui. Elle a dû souvent le surprendre par sa beauté, sa puissance et sa violence. Nous supposons qu'il a joué lui-même la partie violon soliste. La technique, l'expression, l'utilisation de l'harmonie, l'écriture, tous ces aspects convoquent des images, des tableaux musicaux et sont mis au service de l'exposition du narratif. À l'époque de Vivaldi, le violon était considéré comme le roi des instruments, car il était très puissant et pouvait imiter tous les autres. La trompette, l'orgue, ainsi que la voix et les éléments, la nature, les bruits, etc. Dans cette composition, il a fait du violon un véritable synthétiseur. Vivaldi a vraiment poussé à l'extrême les qualités imitatives du violon. C'était un violoniste très doué, mais sa représentation de la nature possède aussi une intensité dramatique. Il écrivait des opéras à l'époque, il aimait le théâtre. Il observait la nature et la mettait en scène. Il a manifestement pris beaucoup de plaisir à composer les quatre saisons. Du plaisir à composer cette musique et aussi à l'associer, comme on le disait au début de cette conférence, à l'associer à des sonnets de poèmes. Par exemple, et ce sera mon dernier exemple, l'exemple du printemps. Lorsqu'on va chercher, alors j'ai pris une traduction de ce poème, ces poèmes sont en italien au point de départ. Voici ce qu'il dit dans ce poème. Le printemps est revenu. Tout enjoué, les oiseaux le saluent d'un chant allègre, tandis que les sources, au souffle des zéphyrs, courent en émettant un doux murmure. Mais le ciel se couvre de nuages noirs, suivis d'éclairs et de coups de tonnerre. Lorsqu'ils se sont tus, enfin, les oiseaux emplissent à nouveau l'air de leur chant. Maintenant, sur le charmant préfleuri, au doux murmure que forment les feuillages et les plantes, le chevrier s'endort, son chien fidèle à ses côtés. Au son joyeux de la musette rustique, le berger amoureux danse avec les nymphes, leurs visages rayonnent dans la lumière du printemps nouveau. Je vais vous faire écouter un court extrait qui correspond aux deux premières lignes. Le printemps est revenu tout enjoué, c'est la majeure partie des choses que l'on va entendre, et on va entendre le tout début de « Les oiseaux le saluent d'un chant allègre ». Voici les oiseaux que j'ai coupés. Alors on pourrait se dire, oh mais c'est formidable lorsqu'on entend Amandine Beyer parler de cette musique, qu'on retrouve ses poèmes, qu'on lit ses poèmes, qu'on entend cette musique, on se dit, bah, tout est là, enfin voilà, il y a énormément de matériaux. Et puis Radouane Mriziga, lui, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, cela m'intéresse de travailler la musique comme le fait Anne-Thérèse et d'écouter Amandine analyser une composition de Vivaldi. Je n'entends que des rythmes. et je me concentre sur ce qui est enfoui dans la musique. Les pulsations cachées, les rythmes cachés. Ma clé de lecture et d'analyse, c'est le rythme. En ce qui me concerne, ce n'est pas indispensable, par exemple, d'entendre tout le morceau pendant le spectacle. La musique peut très bien en être tout à fait absente. C'est une autre façon d'appréhender la musique. Pour finir, une dernière extrait. Vous l'avez vu, le teaser, je pense, puisqu'il est, je l'ai vu dans les écrans dans le hall. Il est peut-être sans son dans le hall au quartz. Vous l'avez peut-être vu sur votre ordinateur. Je vous remets pas l'extrait du printemps que je viens de vous mettre. Vous l'avez en tête, je pense. Maintenant, je vous montre le teaser de la pièce. Donc voilà, je vous invite simplement, c'est une manière pour moi de vous dire, je vous invite à réécouter peut-être les quatre saisons avant ce week-end. Je vous invite, en tout cas, si vous êtes intéressé sur cette analyse de l'œuvre des quatre saisons, allez sur le site de la Philharmonie de Paris, il y a tout des dossiers pédagogiques par saison, où il y a les poèmes, et vous pouvez cliquer sur des petits onglets sonores, et sur chaque partie de poème, vous entendez la version violon avec une analyse de ce qui se passe au niveau musical. Ça peut être formidablement amusant d'aller regarder ça. Voilà ces quelques mots sur le spectacle que vous allez découvrir ce week-end. Et puis, parce que c'est l'heure, j'essaye de tenir le rythme que nous nous sommes imposés, juste quelques mots sur le film que nous allons voir à suivre. Ce film vient, et je le fais en très très court, c'est la première pièce que Anne-Thérèse de Kersmaecker va créer en revenant des États-Unis au début des années 80 en Belgique. Cette pièce s'appelle Phase, Four Movements to the Music of Steve Reich en 1982. Un solo et trois duos sur trois pièces musicales de Steve Reich qui datent des années 60, début des années 70. C'est une pièce de plateau au point de départ, et les quatre pièces sont données simultanément dans la création phase. Aujourd'hui, vous pouvez voir parfois la compagnie donne une pièce ou une autre dans d'autres versions, des versions in situ par exemple. Quelques années plus tard, on va dire deux décennies plus tard, Thierry Demey va proposer à Anne-Thérèse de Kersmaecker d'en faire une vidéo danse, c'est-à-dire de travailler à phase, mais non plus, non pas comme une captation de spectacle, mais vraiment comme une pièce qui serait faite pour le cinéma, pour le film. Donc là, c'est ce que nous allons voir ce soir, ce film de 50 et quelques minutes, qui reprend la chorégraphie originelle de phase, transposée dans différents lieux, et qui est vraiment soumise là à l'œil du cinéaste avec tout le travail que peut proposer le double mouvement lorsque le cinéma s'intéresse au mouvement dansé. Donc ça va être notre deuxième partie de soirée. Je crois que nous avons le droit à 10 minutes de pause avant la diffusion du film, ce qui permet, en tout cas il est, on va dire 19h35, à moins le quart maximum, nous serons dans le noir pour la diffusion du film. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne projection.